voilà, Onde Noire, deuxième partie d'émission. Et nous allons bientôt recevoir une autre auteure. Moi, j'aime bien le nom d'auteur par rapport à écrivaine, parce que dans écrivaine, il y a veine, j'aime pas trop ça. Voilà, donc c'est aussi, donc on a parlé avec Michel Pedignelli, premier roman. Eh bien, Sophie Chabanel, c'est aussi son premier roman noir. C'est un roman qui s'appelle La griffe du chat, et je crois que nous l'avons maintenant au téléphone. Sophie, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre. Donc, La griffe du chat, ben, il est tout neuf, puisqu'il est sorti le 1er mars dans la collection Cadre Noir aux éditions du Seuil. Et j'ai dit un premier roman, mais premier roman noir, parce que c'est votre troisième roman. Le premier s'appelait Décompte. Le deuxième, Manager, relisez vos classiques. Pas vraiment un roman, d'ailleurs un livre. Et puis, un polar. Sur votre site, j'ai lu que vous dites à un moment, quand on se sent mieux, on travaille mieux. J'ai donc l'impression que l'atmosphère du polar semble bien vous convenir.
Oui, en effet. Le polar en question, pour moi, c'était aussi l'occasion d'aborder d'autres sujets et notamment la façon dont on travaille ensemble. Il est beaucoup question d'un duo de flics et la complicité qu'il y a entre eux. Et c'est vrai que la façon dont on travaille ensemble, c'est un sujet qui me tient à cœur par ailleurs.
Oui, puisque voilà, dans le monde de l'entreprise ou dans le monde associatif, je pense que c'est des sujets que vous avez largement développés. Alors, j'allais vous demander justement quelle était la genèse de ce roman. Moi, j'avais plusieurs pistes. Alors, je crois que vous venez de donner la réponse, c'est le duo Romano et Tellier, mais je vous donne quand même mes autres pistes, vous me dites si je me trompe ou pas. Il y a aussi l'ambiance d'une petite ville de province, cette petite ville de Bailleul. Vous avez aussi bien aimé développer ce thème.
Oui, effectivement. Alors, il se trouve que je suis allée dans cette petite ville de Bailleul en vacances. En fait, j'y suis passée et c'est une ville donc assez près de Lille qui, comme beaucoup d'autres villes de la région, a été très marquée par la Première Guerre mondiale. Et c'est une visite qui m'a beaucoup touchée. Alors c'est une histoire un peu particulière, puisqu'en l'occurrence, il y a eu une reconstruction presque intégrale de la ville et qu'il y a eu un vrai projet architectural avec la volonté de lui donner un style flamand. Et donc c'est une assez jolie petite ville. Mais il n'en reste pas moins que tout ça est de la reconstruction, d'ailleurs assez loin de la ville d'origine, et qu'il ne reste presque rien de la ville d'avant. Et c'est vrai que c'est une histoire qui est assez émouvante, et j'avais envie d'écrire sur ce lieu-là, notamment aussi sur le cimetière, qui est un lieu assez bouleversant.
Assez poétique. Et donc, je reviens à la première idée dont vous nous avez déjà parlé, c'est ce duo assez improbable, Romano, la commissaire, Tellier, son inférieur hiérarchique, il est inspecteur. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'un et l'autre de ces personnages? Très, très, très intéressant.
Alors, Romano, donc c'est la chef, c'est la commissaire. Donc évidemment, pour moi, c'est pas tout à fait un hasard si la chef est une femme. Je trouvais c'est mon côté.
J'ai bien pensé ça aussi.
Sans doute qui a fait ce choix. Je trouvais bien que la chef soit une femme. Moi, on pourrait dire que c'est une grande gueule.
C'est ça.
C'est quelqu'un qui a beaucoup de franc-parler. Qui vient d'un milieu très bourgeois et qui, parce qu'elle a voulu prendre le contre-pied à volontiers un langage assez grossier et aime bien être un peu dans la provocation. Par ailleurs, c'est évidemment une super flic. Et Tellier, son adjoint, lui, c'est plutôt un idéaliste qui est extrêmement entier, souvent excessif dans ses jugements, mais qui a des emportements, des diatribes, et qui est souvent horrifié du comportement assez brutal et très pragmatique de sa chef, alors que lui est plus idéaliste et c'est un peu un écorché vif en fait. Il est très sensible et heurté par beaucoup de choses dans le monde qui l'entoure.
Et en même temps très cultivé, son livre de chevet c'est un Camus.
Oui, voilà, c'est quelqu'un de très cultivé, effectivement, qui aime bien Camus et qui parfois se désole d'un certain manque de culture autour de lui et de certaines évolutions de la société qui lui déplaisent. Donc il a deux filles et il a des principes éducatifs qu'il met en œuvre comme il peut, mais voilà, il a notamment cette idée de bilan carbone éducatif. Donc oui. quand il laisse ses filles voir des émissions de télé-réalité débiles, il a pour principe de compenser en les emmenant voir une exposition au musée ou en leur lisant un chapitre de Victor Hugo. Donc voilà, en essayant donc de préserver un certain équilibre dans l'éducation de ses filles.
Et alors, vous venez de citer cette idée que moi je trouve une idée un petit peu décalée et originale. Il y en a plein d'idées originales. Ça foisonne de drôlerie, on va dire. Une qui m'a beaucoup plu d'ailleurs, c'est Romano. Donc d'ailleurs, presque un nom qui est presque un prénom masculin, hein, la commissaire quand même, petite parenthèse. Romano, elle a eu l'idée, apparemment pour mieux faire réfléchir ses flics, elle a installé des vélos d'appartement dans le commissariat, c'est étrange.
Oui, alors en fait ça m'est venu notamment parce que je sais plus pourquoi, mais enfin j'ai fait quelques recherches sur internet et je suis tombée sur un rapport, alors je crois pas que c'était en France, c'était peut-être en Belgique ou en Suisse me semble-t-il, un rapport sur la condition physique des policiers qui déplorait qu'un nombre significatif d'entre eux n'ait pas suffisamment d'entraînement sportif. Et il était dit de façon tout à fait sérieuse, et d'ailleurs ça paraît logique, que c'était problématique, notamment dans le cas où ils devaient poursuivre des malfaiteurs, parce que certains étaient assez en mal de le faire. Et donc j'ai trouvé que c'était un angle rigolo. Et que Romano, du coup, comme elle est effectivement pleine de bon sens et aussi assez créative, qu'elle n'a pas peur de s'éloigner des sentiers battus, elle a l'idée pour à la fois pour les faire mieux réfléchir et puis pour leur faire dépenser quelques calories, d'installer des vélos d'appartement dans le commissariat, et donc les réunions de service se font en pédalant.
Voilà, on réfléchit mieux quand on pédale, apparemment. On va quand même donner un petit peu le début d'histoire. Ils sont amenés, donc ils sont plusieurs, hein. Il y a aussi Clément. Clément, c'est un peu mais c'est un peu lourd à vie quand même, hein, lui. Et l'équipe de Romano vont être amenés à enquêter sur la mort de Nicolas Perrard, qui est le propriétaire d'un bar à chats. Donc encore une idée originale. Donc la mort, on ne sait pas trop si c'est un suicide ou un assassinat, ils vont enquêter, mais bar à chats, je suis sûre que des auditeurs ne savaient même pas que ça existe, ça, des bars à chats. Vous nous expliquez le concept ?
Oui, alors le concept, d'ailleurs je trouve que c'est un mot rigolo pour la chose en question, parce que le concept, il est assez basique, en fait. Le concept, comme son nom l'indique, il consiste à mettre des chats dans un bar. L'idée étant que, finalement, il y a pas mal de gens qui aiment beaucoup les chats et qui, pour des raisons diverses, ne veulent pas s'en encombrer parce que quelqu'un est allergique, parce que ça leur casse les pieds de s'en occuper pendant les vacances. Et donc, une solution alternative consiste à aller dans un bar à chats où vous buvez votre café en ayant la possibilité de caresser les matous qui se promènent là. Donc alors ça vient du Japon en fait, et il y a quelques bars à chats, il y en a à Paris notamment, enfin il y en a quelques-uns à Paris, et puis ce qui m'a donné l'idée tout simplement, c'est qu'il y en a un tout près de chez moi à Lyon. Et voilà, je n'ai pas porté malheur parce qu'il a fermé depuis, mais voilà.
Pour donner un petit peu l'idée et du vocabulaire et des idées un peu déviées un petit peu de Romano, de la commissaire, petit dialogue, petit extrait où elle découvre le bar à chat. Tout ça fait furieusement penser à un bordel. Vous croyez, Tellier, ne soyez pas de si premier degré. Je veux juste dire que ce type était un macro frustré. Le concept du bar à chat, comme vous dites, c'est de faire raquer les pauvres gens en échange de caresses. Bref, de la prostitution pure et simple, répugnant. ouvrez les yeux, même la machine à expresso est phallique. Là, on a un petit peu, voilà, la teneur des dialogues qui vont s'instaurer et qui vont faire avancer la quête tout au long du livre entre Tellier, son inspecteur, et Romano, la commissaire. Une des pistes.
Oui, alors, c'est vrai, pour moi, c'était effectivement le but, c'était aussi de faire un livre drôle. Hein, ça, c'est sûr que c'était dans mon intention d'origine. J'avais envie de faire quelque chose de léger et d'un peu amusant et voilà, et d'un peu décalé, effectivement.
Et alors, je donne une première conclusion. Vous avez réussi. C'est drôle. Et on s'est vraiment régalé à lire ce livre. Autre idée aussi, c'est, vous aimez bien un petit peu aussi, le livre s'appelle La griffe du chat, et gratigner certains milieux, certains travers de vos contemporains. Dans la petite ville de Bailleul en particulier, il y a les édiles. Alors, il y a le maire, avec sa construction pharaonique. Et puis, il y a un personnage, moi, qui m'a beaucoup plu, c'est celle qui s'occupe du musée de la Première Guerre mondiale, Madame Le Sage. Là, on sent que vous êtes amusée à croquer ce personnage.
Oui, alors c'est vrai que c'était un personnage qui m'amusait. C'était aussi pour moi, Bailleul, je le disais, le point de départ, c'est le lien avec la Première Guerre mondiale. Et j'avais envie de travailler sur cette histoire de projet de mémorial d'un goût désastreux. Parce que c'est, voilà, outre le personnage de Madame Le Sage, j'avais ce sujet-là. C'est un sujet auquel je suis assez sensible. Je trouve que parfois, notamment pour les enfants ou pour les ados, on a, à partir d'une intention pédagogique qui est louable, mais je trouve qu'on va parfois trop loin dans le spectaculaire, dans la reconstitution. On fait des trucs un peu à grand spectacle pour évoquer des points d'histoire. Et moi, je trouve que, enfin, je suis convaincue que plus de sobriété, y compris parfois la lecture de textes quand même très forts, de romanciers ou de témoins qui ont vécu ces périodes tragiques, elle est plus efficace que ces trucs qui sont un peu grand-guignols dans certains cas.
Ouais, je dirais que toute ressemblance avec des parcs à thème qui sont sortis en France depuis quelque temps n'est que ressemblance fortuite, bien évidemment. Griffe du chat, ce que vous égratignez aussi de manière assez élégante, c'est la télé-réalité, parce que on va aussi soupçonner ou tout au moins beaucoup interroger, Romano d'ailleurs a un petit faible pour lui, le meilleur ami du défunt qui s'appelle Sanchez et qui est un animateur vedette. Vous l'aimez pas trop, celui-là, quand même, hein ?
Non, en fait, je l'aime pas du tout.
Ça
c'est vrai. Soyons clairs. Là aussi, je me suis inspirée de scènes que j'ai vues à la télé et qui m'ont beaucoup choquée. Alors, je pense que parfois, je suis un peu comme Tellier, c'est-à-dire que j'ai des emportements que j'ai du mal à faire partager aux autres. Mais il y a une des scènes de télé que je raconte qui s'appuie en fait sur un épisode réel. Il y a eu, c'était donc en 2015, il y a eu un reportage pour les 70 ans de la Sécurité sociale, qui était un événement qui est célébré lors d'une cérémonie, une espèce de grand messe. Et j'avais vu un reportage dans une émission quand même assez regardée où on se réjouissait du côté ringard de la chose et où en fait on se moquait vraiment longuement de l'animateur parce que l'animateur de la soirée n'avait pas forcément été très bon à certains moments, avait un peu une fille, avait un peu stressé et on y allait à grands coups de gros plans, de ralentis, etc. pour montrer à quel point il avait été mauvais et tout le monde se tapait sur les cuisses. Et moi, ce côté qui est quand même très très facile de zoomer sur quelqu'un qui est en train de galérer un peu, de merdouiller, de ramer, et de l'exposer à des millions de téléspectateurs, j'avais trouvé que c'était vraiment nul. Enfin,
cruel.
Super, cruel. Et tout le monde ricane, semble trouver que il y a pas de mauvaise, qu'il faut pas prendre la chose au tragique, que c'est pas, que c'est innocent et que c'est pas mal intentionné. Mais en fait, moi, je trouve quand même que c'est assez malsain d'exposer publiquement, de donner un écho comme ça monstrueux à des trucs qui n'ont pas beaucoup d'intérêt et puis qui mettent quand même, enfin qui pour moi relèvent d'une certaine forme d'humiliation publique. Donc ça, c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur, donc j'avais envie de parler de ça.
C'est un petit peu d'ailleurs, je trouve, dans le livre, en dehors de l'enquête et de la description de ce duo et des rapports qui existent aussi bien de travail que personnel entre Romano et Tellier, je trouve que c'est un petit peu votre marque de fabrique, la marque du chat, je dirais. C'est d'évoquer, de donner plein d'anecdotes drôles, souvent très cocasses, et puis, sans avoir l'air d'y toucher, d'aborder des sujets très sérieux. Je dirais presque innocemment, un peu sans avoir l'air. Comme le harcèlement de la fille de Tellier, par exemple. C'est un petit bout du livre, un tout petit bout, mais c'est très sérieusement traité. Et ça aussi, on sent bien que c'est un sujet qui vous énerve. Alors, avant de vous laisser réagir, juste deux lignes, parce que ça, c'est vraiment un de mes passages favoris. C'est Romano qui apprend que Tellier a finalement cassé la gueule à la mère de l'enfant qui harcèle sa fille. Et vous concluez, pourtant, au fond, elle était assez fière de son adjoint. Péter la gueule d'une femme, dans un sens, cela ne manquait pas de panache. Toutes ces années à lui bourrer le mou sur l'égalité homme-femme, de ce point de vue, les deux incisives de Madame Lange, c'était un peu son œuvre aussi. À la limite, on pouvait considérer que le coup de poing de son adjoint faisait avancer la cause des femmes. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà.
Bon, oui, ben, c'est là qu'on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Hein.
Exactement.
Effectivement, on demande l'égalité entre les hommes et les femmes. Il va falloir s'exposer à recevoir quelques coups de poing quand on l'aura cherché au même titre que ces messieurs, effectivement.
Les femmes sont des hommes comme tout le monde.
Mais bon, voilà, là je me suis effectivement un peu amusée, mais c'est vrai que... Dans mon projet, il y avait aussi cette volonté d'aborder des sujets qui sont assez graves finalement, et notamment le harcèlement de cette petite fille, sachant que pour moi l'idée c'était aussi de faire une passerelle justement avec les émissions dont on parlait tout à l'heure. Parce que je trouve qu'il est difficile d'expliquer à des enfants quand même assez jeunes que c'est mal de se moquer des autres si soi-même adulte, on passe 2 heures par jour à se taper les cuisses en faisant exactement la même chose. Donc c'était aussi l'idée que le harcèlement dont on nous parle beaucoup, ce n'est jamais qu'une façon de se moquer de l'autre, de le tourner en dérision devant tout le monde. Et c'est quand même une pratique qui est assez banalisée dans les médias. Donc
voilà, oui. Et avec les téléphones. Je suis obligée de vous interrompre parce qu'on arrive au terme de notre émission. Donc je vous demande juste de répondre par oui ou par non à ma dernière question. Nous, on s'est beaucoup attachés à Romano et Tellier. Alors, la suite, oui, non ?
Oui.
Merci beaucoup Sophie Chabanel et j'espère qu'on vous retrouve très bientôt. Merci, au revoir. C'est donc la fin de notre émission. Donc on vous dit chacun dans un coin avec un bon bouquin.
Ou plusieurs.
Et à très bientôt. Merci, au revoir.